KR.
L'émission transportée de Queen. Féminisme, sexu, militance.
Le troisième mercredi du mois à 18h en direct sur Radio Primitive.
L'émission Transpé des Bigouines, mais pour tout le monde.
Il est 18h sur Radio Primitive.
Bienvenue
dans cette nouvelle émission de DKR pour le mois d'octobre.
Cette fois, c'est le bon générique.
Pumpkin
ouais.
Émission. Ah bon ? On sait
ouais,
pas.
Ouais, si, c'est le bon celui-là.
C'est bon, on verra le mois prochain.
Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir, on peut dire ton vrai prénom.
Oui, on peut.
On peut dire Floris avec nous. Bienvenue dans Daikiri. L'émission du jour est donc consacrée à la littérature.
Oui.
Pas que, à la vidéo aussi, parce que toi, tu es booktuber, c'est ça ?
C'est oui, comme c'est ça. Ça que c'est le bon terme, effectivement.
Si tu devais te présenter, tu te présentes comme ça ?
Ouais. Après, ça dépend de l'âge de la personne. Sinon, je dis, je fais des vidéos sur YouTube dans lesquelles je parle de livres.
Super. Alors, ta chaîne, elle s'appelle comment ? Tease-nous un petit peu ça avant qu'on écoute une petite musique d'introduction.
Eh bien, ma chaîne, elle s'appelle Flowfly, qui est bêtement le pseudo que j'utilise sur Internet depuis que j'ai 12 ans, je pense. Et du coup, j'ai eu la flemme de trouver un pseudo avec un jeu de mots autour du livre, tout ça. Donc, j'ai gardé Flowfly. Et c'est mon nom sur YouTube et sur Instagram pour me retrouver.
Ça fait quelques années maintenant qu'on a le plaisir de découvrir tes vidéos sur les plateformes vidéo. Et tu es local, donc c'est pour ça qu'on a la chance de t'avoir en studio avec nous. Tu nous as ramené de la musique en plus. T'as bien fait le job. Donc je te laisse peut-être, si tu veux, le plaisir de la chanson introductive. Tu nous as ramené plein de choses. Qu'est-ce que t'as envie d'écouter pour commencer ?
Je te disais, je me rappelle
plus. Tu te rappelles plus trop.
Mais ici, il y a un morceau d'Ascendant Vierge, mais je ne sais plus lequel je t'ai donné.
Tu nous as mis Discoteca.
Et ben voilà, la Discoteca.
Allez, c'est parti pour l'ambiance. La Discoteca dans Daikiri.
Discothèque,
Là, on n'est pas dans la discothèque, on va passer à la boucothèque.
La boucothèque, pas mal ça, dans
Dandakiri. Concept à créer.
Aujourd'hui, notre invité, c'est Flowfly, booktuber local hyper reconnu sur les réseaux et les plateformes vidéo. Merci encore à toi d'être avec nous en direct. On a plein de questions à te poser pour te présenter.
Du coup, on a regardé ce que tu faisais quand même, parce qu'on est, des journalistes sérieuses et sérieux, quoi. Et on se demandait si est-ce que c'est le Covid qui t'a fait faire des vidéos.
Ouais, carrément. Parce que sur ma première vidéo, elle date de février 2021, je crois, il me semble. Et ça devait être le, je sais plus combien, xème confinement qu'on morflait. Et en fait, j'ai lu plein de livres. Déjà, je parlais pas avec beaucoup de monde dans la vie de livres, mais j'ai consommé plein de booktube à ce moment-là. Et je me suis dit, bon, bah allez, feu, ça part moi aussi. J'ai une caméra, j'ai un ordinateur, une connexion Internet et beaucoup de temps devant moi parce que je suis enfermé chez moi. Donc, je vais faire ma première vidéo.
Comme quoi, merci le Covid. Hein, des fois, ça crée des expériences assez sympathiques. Et t'étais déjà consommateur du coup de booktubeurs.
Et en fait, je regardais beaucoup de booktubeurs, mais qui parlaient de livres qui m'intéressaient pas forcément. Enfin, j'avais du mal aussi à trouver des booktubeurs qui parlaient de livres que moi j'apprécie. C'est vrai que au tout début de booktube, maintenant ça a évolué, mais il y avait beaucoup beaucoup de recommandations sur la fantasy, la littérature jeune adulte, la romance aussi. C'est un gros pan de booktube qui est sectorisé. Enfin bref. Mais et donc. Moi, je lis plutôt de la littérature blanche, générale, classique. Enfin, le truc qui passe à la grande librairie.
Alors, oui, explique-nous ce que c'est la littérature blanche, parce que je ne connaissais pas le terme.
Ok. En fait, la littérature blanche, ça vient de la collection Gallimard. La collection Gallimard, c'est les livres qui sont blancs, en fait. Et c'est pour ça qu'on a donné ce nom à cette littérature, parce que c'est une littérature qui n'est pas une littérature de genre. Donc, ce n'est pas du roman noir, ce n'est pas du policier, ce n'est pas du thriller. C'est de la littérature qui parle de tout et n'importe quoi. Alors, si on veut abréger, on peut dire tout ce qui est classique, c'est de la littérature blanche. Si on retire Frankenstein et ces autres titres-là, par exemple, qui, eux, sont de la science-fiction. Mais toute la littérature qui est non-genrée est de la littérature blanche. C'est marrant de dire ça.
Eh ben oui.
Ils ont choisi comme par hasard blanche.
Mais totalement. Une fois, on m'a attrapé sur TikTok, justement, parce que j'avais fait un TikTok où j'avais dit « Ouais, je préfère les littérature blanche. » Et je pensais que c'était un terme qui était plutôt connu. Et en fait, non. Et on m'a dit « Comment ça? Tu lis pas des auteurs noirs? Tu lis pas des auteurs racisés ?» Je dis « Si, si, pas de souci, vraiment. » Et donc, j'ai fait un petit TikTok qui a plutôt bien fonctionné, d'ailleurs, sur qu'est-ce que la littérature blanche.
Comment créer des polémiques sans vouloir.
Ouais, mais carrément.
C'est bien, ça a permis de peut-être rendre le terme un petit peu plus
c'est
connu.
Ça, ouais. Parce que pour le coup, la communauté BookTok est encore beaucoup plus jeune que la communauté Bookstagram ou BookTube. Donc c'est vraiment je pense, 15-20 ans sur TikTok, si ce n'est plus jeune. Et donc du coup, c'est pour ça aussi, je pense que la personne ne connaissait pas le terme.
Et à part l'ennui, pourquoi des vidéos? Pourquoi ce format-là? T'avais déjà un savoir-faire ou...
Non, aucun savoir-faire. Je sais pas. Parce qu'en fait, j'écoutais pas du tout de podcast à l'époque. C'est vrai que donc ça m'est même pas venu à l'idée de faire un podcast. Personne m'a invité à la radio à ce moment-là pour en parler non plus. Donc je sais pas. Ouais, non, la vidéo. Après, je pense qu'il y a un côté narcissique un peu aussi dans la vidéo, et ça, je m'en cache pas. Le fait de se filmer, de se faire beau et tout ça, et de se voir et de proposer son image à des gens. Je pense que c'est quelque chose qui m'a plu aussi et qui me plaît toujours d'ailleurs. Mais ouais, je pense qu'il y a vraiment une part de narcissisme, d'égocentrisme pour le format vidéo.
Tu veux te montrer ton chez-toi
Est-ce que tu sélectionnes justement ce que tu veux aussi pas montrer? Est-ce qu'il y a un personnage qui se crée quand même? Est-ce qu'il y a des parties de l'intime que tu préfères pas parce que justement, t'es visible, quoi.
Ouais. Non, j'ai pas l'impression parce que moi, j'ai pas de studio, j'ai même pas une grosse bibliothèque chez moi parce que je garde très peu mes livres. Donc souvent, il y a un espèce de format type sur BookTube qui fait que tu t'assois sur un siège devant ta bibliothèque, qui fait un peu une position de force. Regardez, j'ai beaucoup de livres, vous pouvez les voir. Voilà. Et ça, moi, j'ai pas. Et donc, dès le début, la première vidéo, je crois que je tourne, je filme debout dans mon salon. En plus, c'est un truc qui fait absolument pas naturel parce que je suis debout, je sais pas comment me tenir. Donc ça a évolué par la suite. Mais j'ai essayé plein d'endroits dans mon appart. Donc il y a des vidéos où je suis dans mon lit, des vidéos où je suis par terre dans ma chambre. J'ai filmé déjà dans ma cuisine, dans ma salle de bain, dans mon salon. Donc tout ce qui est mon intérieur, mon appartement, je le cache pas. Enfin, genre, je filme un peu partout. Et depuis maintenant quelques années, je fais des vlogs aussi. Et donc le vlog, t'es amené. Des fois, je me filme au réveil, je suis torse nu. Et donc c'est vrai que sans m'en rendre compte, je pense que si mes parents voyaient ça, ils me diraient « mais t'es fou, mais parce qu'ils ne regardent pas tout, donc ça va, c'est pas très grave ». Mais j'en montre beaucoup, peut-être un peu trop, j'en sais rien. Moi, je n'ai pas de souci avec ça et même, ouais, voilà.
Ils pensent qu'il y a des gens qui vont faire des dessins de ton appartement pour arriver à schématiser.
Surtout qu'on a dit que t'étais local maintenant. Donc, merde.
Il y a déjà des gens qui n'étaient jamais venus chez moi avant de voir les vidéos, des potes que j'ai rencontrés via BookTube, ça, ils m'ont dit « putain, mais j'imaginais ça plus grand, mais ça plus petit ». Donc il y a quand même un espèce d'imaginaire qui se crée en fait. Parce que aussi, je publie presque de façon hebdomadaire, donc on est quelqu'un pour les autres. Enfin, il y a une relation qui s'instaure parasociale, quoi.
Concernant la relation parasociale, justement, moi, c'est ce que j'ai adoré dans tes vlogs. On te voit avec ton café du matin, ta petite cigarette électronique, tu fais du unboxing, tu nous parles de tes repas. C'est... On est vraiment dans une relation parasociale, en plus du côté lecture.
Ouais.
Et ça, c'est un truc que moi, j'ai beaucoup apprécié dans ton compte. Et tu te bases quand même beaucoup sur le format blog, finalement, quand tu parles des bouquins que tu lis. Est-ce que tu as des recommandations d'autres blogs ou de booktubeurs, de booktubeuses à nous proposer.
Y a une grosse booktubeuse avec qui je suis amie maintenant qui s'appelle Margorito, justement, on en parlait un peu avant.
J'aime bien ce qu'elle fait.
Moi, je fais une reco, mais elle a plus d'abonnés que moi, etc. Donc Margorito qui propose surtout de la littérature sociale, enfin des sciences sociales, elle parle beaucoup de sciences sociales, mais aussi de fiction, science-fiction, etc. Elle fait des formats qui sont un peu plus écrits que les miens, pour le coup. Elle aborde une thématique précise avec 3-4 livres. Elle crée un corpus. Enfin, vraiment, c'est des vidéos qui sont hyper léchées et c'est hyper plaisant à regarder. Là, comme ça, tu m'as pris de court un peu. Non, désolé, j'arrive plus à réfléchir.
Bah, Margorito, c'est déjà une
super reco.
On va tous te noter et on va aller regarder.
Ouais.
Pour les gens qui connaissent pas du tout ton format, comment tu le décrirais? C'est des formats longs de découverte de livres, des fois c'est des séries, des fois c'est des thématiques. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur ta chaîne?
Alors, à la base, et c'est ce que j'essaye de faire, c'est j'ai pas envie que ça dépasse 30 minutes parce que j'ai moi-même au bout de 30 minutes je perds un peu l'attention quand on me parle de trop de livres sur un temps trop court donc ou trop long. Enfin bref, 30 minutes je trouve que c'est un format idéal et en fait en me filmant je vois le temps et si je parle d'autant de livres que je peux en 30 minutes sans que ce soit indigeste et à 30 minutes en général je coupe. Après, donc ça c'est un format que j'appelle un point lecture ou un update lecture, c'est quelque chose, si vous tapez ça sur YouTube point lecture, vous allez avoir plein de booktubeurs et c'est le format type où on parle de nos lectures. Donc moi, c'est vraiment moi, face à ma caméra, je vous dis, j'ai lu ça le mois dernier, voilà de quoi ça parle, et j'ai aimé ou j'ai pas aimé. Donc ça, c'est un peu le format type. Après, y a des vlogs où là, pour le coup, c'est du quotidien, et en même temps, je vous dis, je suis allé faire mes courses, mais j'ai lu ça ce matin en me réveillant, et blablabla. Donc là, c'est filmer sa journée quotidienne. Sinon, il y a des petits challenges saisonniers ou non. En fait, c'est... on s'impose un peu nos lectures en fonction de thématiques, de références à un film, de références à une série. Il y a Guimauze, le terrier de Guimauze, qui propose en ce moment même le Pumpkin Autumn Challenge sur le mois de septembre, octobre, novembre. Donc elle donne 12 catégories de livres, donc un livre avec la couverture bleue ou alors un livre avec... une maman qui perd son enfant dans le cadre du polar, c'est des trucs qui se passent beaucoup, enfin voilà, des choses comme ça. Et les gens font leur pile à lire. Et donc, des fois, moi, je fais des vidéos pile à lire où je vous dis, sur les 3 mois à venir, j'ai envie de lire tel livre, tel livre, tel livre, tel livre. Donc, ça fait un peu catalogue parce que c'est des vidéos dans lesquelles on n'a pas encore lu les livres, on annonce ce qu'on va lire. Ça permet aussi parfois de combler une semaine où on n'a pas de vidéo. Enfin, c'est une vidéo qui est hyper simple à faire où je vous dis juste, j'ai envie de lire ça. Moi, ça me demande pas trop de temps ni d'énergie. Après, moi, je trouve pas ça forcément intéressant à regarder, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien, en fait, avoir justement plein de livres comme ça d'un coup, même sans forcément donner son avis.
Adore les pales, c'est beau.
Voilà, c'est ça.
Donc
c'est...
Ça donne des très bonnes idées. Hein.
Ouais.
Bah justement, je vous propose qu'on fasse quand même une petite pause musicale parce que tout ce que tu me dis là, ça m'amène à d'autres questions auxquelles on n'avait pas forcément réfléchi ensemble avec l'équipe de Daiquiri. Donc, je vous propose qu'on se passe un petit morceau de nouveau. Toi aussi, Lo, t'avais ramené des petits trucs. Tu veux nous passer un petit morceau que t'avais suggéré
Ouais, carrément. Bah, moi, quand on s'est dit littérature, je me suis dit rap. Et du coup, on ne pouvait pas ne pas passer la queen du rap drag français, qui a en plus ressorti des sons cette année. Donc, on va passer un son de Piche.
Évidemment. Et c'est carré.
« Michel aime danser, chanter, se balancer, c'est la plus belle de tout le carré. Michel aime moyer, kicker, se balancer, c'est la plus belle de tout le carré. Allô bébé, c'est moi, tu veux t'ambiancer, j'arrive dans la tête, tu me vois, j'échappe. Tout est manigancé. Elle c'est la pauvre cocaïna, elle est dans les potins, c'est trop miné. Elle a trop la boca, 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 champagne ruina, elle va te ruiner. Elle veut te voir faire des trucs de fou. Elle pose tapis quand tu te couches. Elle arrive en Cayenne tranquille quand toi t'es fauché. T'as rien dans les poches mais elle pleut les sous. Elle veut du carré, carré, carré. Tu peux pas la faire tomber. Elle est son balèque, balèque, balèque. Elle va rider la vie de ton cœur. Elle veut du carré, carré, carré. Tu peux pas la faire tomber. Elle est son balèque, balèque, balèque. Elle va rider la vie de ton cœur. Michel aime danser, chanter, se balancer. C'est la plus belle de tout le carré. Michel aime moyer, kicker, se balancer. C'est la plus belle de tout le carré. Allô bébé, c'est moi. Tu veux t'ambiancer, j'arrive dans la tête, tu me vois, j'échappe. Tout est manigancé.
Elle clôt le déballage, il donne. Elle a fondu le fer en enfer. Elle a trop de data, coup de tata. Allô madame Jeanne, on est deux dans le fire. Elle fait pas de gris-gris marabout. Clary, c'est sa voix qui fait pleurer les cous. Elle retourne le système facile quand toi tu fais tout pour la mettre à terre. Garde à vous.
Elle veut du carré, carré, carré. Tu peux pas la faire tomber. Elle est son balèque, balèque, balèque. Elle va rider la vie de ton cœur. Elle veut du carré, carré, carré. Tu peux pas la faire tomber. Elle est son balèque, balèque, balèque. Elle va rider la vie de ton cœur.
Michel aime danser, chanter, se balancer. C'est la plus belle de tout le carré. Michel aime moyer, kicker, se balancer. C'est la plus belle de tout le carré.
Allô bébé, c'est moi. Tu veux t'ambiancer, j'arrive dans la tête, vois, tu me vois, j'échappe. Tout est manigancé.
C'est dansant. C'est carré.
C'est carré.
C'est piche sur Radio Primitive pour nous accompagner dans cette émission Daiquiri avec Flo Fly, notre invité du jour. On parlait donc évidemment de tes vidéos que tu publies sur YouTube et pas que. On parlait de ton activité de lecture. On va aussi continuer à aborder ces sujets-là. Pour clarifier un petit peu le tout, tu t'es donné toi des objectifs de sortie de vidéos. Est-ce que dès le départ tu t'es dit moi je veux m'engager sur un rythme particulier ou pas du tout?
Ouais, de toute façon, on n'a pas trop le choix au début, parce que si on veut que YouTube et l'algorithme de YouTube soient gentils avec nous, il faut être régulier. Et pendant, je pense, 3-4 ans, je m'imposais de sortir une vidéo par semaine, mais de façon drastique. C'était le samedi ou le dimanche, il faut que ma vidéo sorte. Je suis un peu revenu là-dessus parce que ça prend du temps et puis il faut prendre le temps de lire aussi. Et justement, vu que j'essaye de me retirer de certains formats qui, moi, ne me plaisent plus ou avec lesquels je suis plus forcément en accord, comme les piles à lire ou tout ça, du coup, j'ai moins de contenu à partager. Donc là, je suis plutôt de l'ordre d'une toutes les deux semaines, deux, trois semaines, quoi. Enfin, après, tout dépend. Si dans le mois, je vais lire 40 livres, forcément, j'aurai du contenu, j'aurai plein de vidéos à produire. Mais tous les 15 jours, à peu près, il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube. Mmh. Et quotidiennement par moment, parce que par exemple au mois d'août je propose les vlogs d'août comme Léna Situation sur YouTube, et donc du coup je fais un vlog tous les jours, donc du 1er au 31 août j'ai sorti une vidéo tous les jours vers 10h, entre 10h et midi quoi.
Super, ouais, donc ça peut aussi varier en fonction des moments dans l'année et tout.
C'est ça.
Parlons accessibilité aussi de ce format, parce que tu nous disais, tu as commencé pendant le Covid et tu t'es dirigé vers ce format vidéo. Est-ce que tu as eu les moyens techniques tout de suite de produire? Comment ça s'est fait au fur et à mesure? Est-ce que tu as acheté du matos? Comment tu t'es approprié le matos?
J'ai dû me former tout seul, acheter du matos, etc. Parce que j'ai commencé avec une caméra, comme on avait tous, je pense, pendant un temps, le petit appareil photo numérique ou un truc comme ça. Enfin, la qualité était pas ouf, le son était dégueu. Et en fait, j'ai mis du temps à comprendre que les gens regardent, mais les gens écoutent aussi. Il y a plein de gens, en fait, même qui regardent pas forcément, qui écoutent pour s'endormir ou quoi. Il y a une fille qui est devenue une amie maintenant qui me disait c'est trop bizarre parce que tous les soirs je m'endors avec ta voix en écoutant tes vidéos. je t'ai découvert là, donc j'ai encore 3 ans de vidéos à rattraper, c'est trop bien. Enfin bref.
Tant que c'est pas à cause de l'ennui, ça va.
Non. Mais donc du coup j'ai acheté une caméra, ça coûte assez cher pour que la qualité soit belle. J'ai acheté un micro, je me suis rendu compte que ça coûtait cher aussi, j'y connaissais rien. Donc en fait tout bêtement, je tape sur Google, je tape vidéo booktube, conseil caméra. Après souvent sur YouTube, il y a quand même dans la barre d'infos, les gens sont gentils, ils disent moi je filme avec telle vidéo, enfin avec telle caméra, j'enregistre avec tel micro. C'est une pratique qui se fait couramment sur YouTube, j'ai découvert ça. Et donc du coup je peux aller voir quand je cherchais une caméra, les gens que je suivais, avec quoi ils filmaient. Mais d'un autre côté, j'ai aussi envie de dire que c'est faut que ça reste accessible, et c'est pas grave si c'est filmé à l'iPhone et si le son il est pas ouf. Et il y a de plus en plus d'ailleurs de gens qui filment à l'iPhone, et maintenant en plus le micro de l'iPhone je crois est pas trop dégueu, hein, parce que je regarde des booktubeurs, des petits jeunes, j'aurais dire j'ai pas non plus 60 ans, mais des booktubeurs là de 20 ans qui la plupart sont encore en études, ils filment avec leur téléphone dans leur chambre, dans leur piole qui fait 9 mètres carrés, et c'est hyper intéressant ce qu'ils disent.
Oui, donc, le contenu dépend pas forcément de la qualité, mais ça a un coût. Donc c'est ça pour ça coup. Que
ça a un coût, et puis bah faut aussi l'appréhender. Enfin moi faire tourner une caméra, tout ça ça va, mais après utiliser un logiciel de montage, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. J'ai voulu essayer de créer un petit jingle, puis il faut faire des miniatures pour qu'elles soient compréhensibles, un peu jolies, pour que YouTube la mette en avant, que les gens cliquent dessus. Donc c'est tout un truc de marketing qui moi me passe encore à des années-lumière au-dessus de la tête, que je maîtrise pas vraiment. Qu'il faut apprendre à appréhender, quoi.
Ouais. Donc au final, ton activité t'a permis d'apprendre d'autres choses annexes.
Ça, d'ailleurs, je l'ai réutilisé au boulot, donc ça, c'est dans mon travail salarié, j'ai envie de dire. Le logiciel de montage, ça aussi, ça a un coût d'ailleurs, parce que je paye un logiciel de montage qui n'est pas gratuit, mais c'est des choses qui m'apportent des compétences pour ma vie perso, donc c'est cool.
Trop bien. Merci pour cette réponse. Moi, j'avais une autre question. Alors, tu réponds en partie, notamment dans les vlogs que j'ai regardés. Je sais que tu lis 1 heure le matin, mais comment tu fais en fait pour lire tout le temps? Est-ce que tu as des moments, en fait, tu te fixes des rendez-vous outre celui du matin? Du coup, est-ce que tu te fixes des rendez-vous? Combien de livres tu lis en fait
Alors c'est variable, à l'année c'est entre 150 et 200 livres à peu près au roman. Après je lis pas des énormes livres, j'ai du mal à me plonger dans un livre sur 1000 pages, donc je lis des romans qui font en moyenne, je fais des stats hyper précises, hein, j'ai un tableau Excel, donc je crois que l'année dernière mes livres, la moyenne des livres c'était 277 pages par roman, et j'ai lu je crois 221 romans en 2024 du coup, et là je suis à 170 aujourd'hui. Donc
c'est beau,
voilà. Oh, pour les stats à
peu
près.
Tu es insomniaque en vrai.
Ouais, et ben c'est la réponse justement, je suis insomniaque, donc je dors entre 4 et 5 heures par nuit, parfois moins. Donc je lis le soir un peu, mais très peu le soir, parce que j'ai pas la même attention que le matin. Mais comme le matin je me réveille parfois à 3h30 ou 4h du matin, et que je pars travailler que vers 8h, et j'ai presque 4h. Donc je lis pas pendant 4h d'affilée, je m'impose de lire 1 heure en fait. Et si je suis bien dedans, tout ça, je continue à lire. Mais des fois je regarde, on en parle un peu, mais je regarde beaucoup les matinales sur Twitch aussi le matin, j'écoute un peu la radio. Donc voilà, je me force pas. Après pendant midi j'ai une grosse pause de midi, donc je lis. En fait, je suis du genre à grappiller. Dès que j'ai 5 minutes de pause au boulot, je lis 3 pages. J'ai pas besoin d'être plongé. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle je discute beaucoup. Moi, j'ai pas une capacité d'attention, à part sur mon heure matinale où je lis vraiment 1 heure non-stop. J'ai pas une grosse capacité d'attention. Donc, du coup, je lis 5 pages, je lis 10 pages, je regarde 4 notifications sur mon téléphone. Je lis en même temps que je regarde la télé, que j'écoute la radio, que je caresse mon chat et que je fais à manger. Enfin,
Tu lis en marchant.
Tu coupes des pommes.
Et je lis en marchant.
Ça, c'est impressionnant, les gens qui lisent en marchant.
Maintenant, là, je vais au boulot justement en marchant. Donc, je lis. Ça me rajoute 1 heure de lecture. Et c'est ce que je disais à mes collègues ce matin. Je dis, putain, mais en ce moment, je lis à fond parce que je marche 1 heure le matin, 1 heure le soir. Donc, j'ai rajouté 2 heures de lecture dans mon emploi du temps. Chose que je n'arrivais pas à faire au volant et qui n'est pas recommandée non plus.
Non, non. Ne conduisez pas en lisant, s'il vous plaît.
Non, mais c'est super parce que bah, y a aussi beaucoup de gens qui, depuis l'arrivée des écrans, moi je me compte tout à fait dedans, hein, ont beaucoup plus de mal à trouver du temps, à se donner du temps plutôt que trouver du temps, accorder du temps à la lecture. Toi, ça t'est jamais arrivé, ça, justement, d'être coupé par ce côté écran et tout ça ?
Si, si, ça m'arrive rarement, mais de ne pas lire pendant 2-3 jours. Enfin, en vrai, c'est pas grave. Et c'est un peu le truc contradictoire où moi je parle de littérature, mais il y a plein de gens qui me disent moi je lis pas. Je dis non, mais c'est pas grave. Tu regardes sûrement des films ou des séries que moi je ne regarde pas. J'ai une culture télévisuelle qui est pas très très bonne. Et je suis pas en mode faut mettre la lecture sur un piédestal. Après, je pense que c'est cool quand même de lire des bouquins. Et j'ai des potes qui, en me voyant lire, c'est comme avec la parentalité, je crois, par l'exemple, tu vois, les gens te voient faire un truc, du coup, ils le font. Et mes potes se sont remis à la lecture pour certains. Il y a même une pote qui a acheté une liseuse dernièrement parce qu'elle me disait, bah, en fait, je lis tellement que bah, c'était plus économique de prendre une liseuse. Et j'ai oublié la question que tu avais posée.
Si, bah justement, les écrans.
Ah ouais, les écrans. Mais oui, après, ouais, voilà. Moi, je pense que j'avais une capacité d'attention qui était plus importante par le passé. Et maintenant, mon téléphone, c'est pour ça que je lis plus que par 10-20 minutes et je regarde mon téléphone et je regarde la télé en même temps. Je pense qu'il y a quand même. Ça fait des ravages un peu là-dessus, c'est sûr.
Carrément, quand tu t'ennuies, c'est plus facile de scroller que.
C'est ça.
De chercher ce que tu vas lire.
Mais après, on peut aussi scroller et lire des trucs hyper intéressants, même sur Instagram, avec des posts bien écrits et tout, trop cool. Donc, faut pas non plus
diaboliser.
Ouais, voilà, c'est ça.
Et tu restes sur un bouquin ou t'as plusieurs lectures en même temps ?
Non, j'en ai souvent 2-3. Ouais. En général, j'ai ce qu'on appelle un beau livre. Vous savez, c'est les gros livres avec des images. Et là, j'en ai lu un sur l'histoire de la sexualité, donc de l'Antiquité. Donc, c'est un truc, t'as pas forcément envie de le bouffer d'une traite. Ou, tu vois, c'est un peu plutôt sur un format documentaire. Donc, j'ai ça sur ma table de salle à manger. Après, j'ai un livre que j'emporte tout le temps avec moi. Et j'ai ma liseuse. Et donc, au cas où, sur ma liseuse, j'ai presque 200 livres. Donc, si j'ai pas l'occasion de sortir le livre que je suis en train de lire, je prends ma liseuse, je commence autre chose. Je me focus pas sur un bouquin, j'aime bien. Puis après, tu vois, le matin, quand j'ai ma lecture où je sais que je suis concentré, je lis un truc un peu plus ardu. Et dans la journée, quand je grappille 4-5 pages, bah, je vais sur des trucs un peu plus légers. Ouais, voilà.
Et qu'est-ce qui te fait acheter un livre ? Genre la couverture, le sujet, le résumé ou t'as pas de critères et...
Si, bah alors, mes potes vont se foutre de ma gueule, mais ils me disent bah déjà, si l'auteur est gay ou quelque part sur le spectre, on sait que tu vas l'acheter.
C'est important.
et je m'en cache pas et j'en suis fier même hein, de lire les auteurs TPBG, du coup. Après, je consomme le peu de contenu littéraire de médias mainstream, enfin je sais pas trop comment dire, mais en gros la grande librairie, c'est à peu près la seule émission à la télé, et le book club sur France Culture, qui sont les deux grosses émissions qui parlent de l'actualité littéraire vraiment hyper proche, donc du coup ça m'aide, et les booktubeurs, booktubeuses, et enfin surtout Instagram. Maintenant je consomme plus sur Instagram les gens, leurs recommandations. La couverture, non, pas tellement, en vrai c'est pas... Ça fait un peu le mec qui se la pète, genre non, je suis pas faible, je me fais pas avoir par la couverture, mais sûrement que si, de façon implicite, mais non, le résumé, ouais. Et puis, je pense que maintenant, là, je dois être sur un bon 50-50 sur les histoires qui sont gays ou les histoires hétéros, et donc c'est vrai que quand une histoire est gay, ça aide vachement.
Et t'as des lieux pour acheter des bouquins sympas, hein?
Alors, ouais, à Reims, je vais là dernièrement. J'y allais pas trop avant parce que je sais pas pourquoi, mais maintenant je passe devant vu que je vais au travail en marchant. Donc il y a la belle image rue Chanzy qui est vachement cool.
C'est vrai.
J'habite moi pas très très loin de la librairie Amaury, donc fatalement aussi je vais à la librairie Amaury. Et je ne vous encourage d'ailleurs à aller vers les librairies indépendantes. Donc il y en a pas 15 sur Reims, donc la librairie Amaury, la belle image. Une toute nouvelle librairie, mais dont j'ai mangé le nom malheureusement, qui est Avenue Jean Jaurès, au coin des mots, si mes souvenirs sont bons, c'est au coin des mots, qui a ouvert le 27 septembre, donc Avenue Jean Jaurès, qui est aussi une librairie indépendante. Et on n'en a pas trop parlé, mais je ne fais pas qu'acheter, j'emprunte beaucoup en médiathèque, donc bah, les médiathèques, le réseau de médiathèques de Reims, qui est, je dois dire, franchement vachement cool. Et,
même sur les nouveautés.
Même sur les nouveautés, ouais. Alors, surtout, moi, j'emprunte beaucoup de BD. C'est vrai que j'ai pas forcément besoin d'emprunter des livres parce que j'en reçois, mais on en parlera peut-être plus tard. Mais les BD, c'est quelque chose que j'ai pas envie d'acheter une BD. Je suis un peu rat, une BD ça coûte cher et on la lit en une heure, donc du coup, c'est pas cool pour tous les artistes parce qu'en plus, il y a plus de gens qui travaillent sur une BD, donc ils sont moins rémunérés que les auteurs sur un roman. Mais j'emprunte les BD. Et c'est trop bien parce que si la BD elle est disponible à la médiathèque Croix-Rouge, moi j'habite pas très loin de la bibliothèque Holden, sur le site internet, ils te la livrent à Holden et donc c'est hyper accessible. En fonction de tes heures de travail et du lieu où tu habites, quoi.
Ok, donne pas trop d'indices. Sur
oui, là, il faut te géolocaliser maintenant, ça y est.
On écoute un morceau, si vous voulez bien.
Vas-y, vas-y.
On retape dans tes morceaux, si tu veux. Il y a un truc que t'as envie, là, de ce que tu te souviens pas.
Il y a la nouvelle de Jeanneto, je crois que c'est Faire Genre,
et bah
qui
ouais.
est sortie il y a pas longtemps.
Et bah on va faire genre, alors. Vas-y. Et on fait la fête hein, ce soir dans Daiquiri.
On a mis les lumières en plus.
Et ouais, et ça, ils le savent pas. Oh, on peut pas garder un truc secret avec toi.
Jamais,
c'est fou,
jamais.
Ça. On parle booktube, on parle de livres avec Flo Fly, notre invité du jour sur Radio Primitive. On parle de ta chaîne, évidemment. Tu nous disais tout à l'heure que t'aimais bien quand dans les histoires, il y avait des personnages TPBG. est-ce que c'est important pour toi? Est-ce que, comment tu c'est quoi ton rapport justement avec cette littérature-là? Est-ce que tu exclus toute autre chose ou pas du tout?
Non, j'exclus pas toute autre chose, mais j'ai vachement évolué là-dessus en fait, parce que je me rappelle dans mes toutes premières vidéos, et ça doit se retrouver, j'ai dû dire un truc genre je veux pas être le booktuber gay, je veux pas être le booktuber qui parle que de ça, et en allant, en fait, je me suis rendu compte, dans tous les cas, fatalement, je parlais beaucoup de littérature gay, principalement gay, homosexuelle, masculine, parce que c'est la sexualité que j'ai, donc c'est vrai que j'ai un biais là-dessus, mais je m'ouvre de plus en plus à la littérature lesbienne, bi, gay, trans. Et tu peux me rappeler encore la question?
Du coup, c'est important pour toi.
Oui, c'est vachement important parce que... Alors déjà, il y a aussi les hétéros qui s'emparent de des histoires TPBG. Et il y a un truc qu'on appelle le own voice. Alors je ne sais pas si vous êtes coutumier du fait. Donc own voice en sa propre voix en littérature, c'est si tu parles d'une histoire gay et que tu es gay, tu fais du own voice. Et si tu es hétéro mais que tu parles d'une histoire gay, c'est pas du own voice. Et donc il y a un débat hyper présent là-dedans où il faut lire que du own voice. On peut autoriser les deux. Moi, je suis pas forcément pour lire que du own voice parce que je me dis qu'aussi, la littérature, c'est l'imagination, c'est raconter une histoire, etc. Et qu'au final, presque tout le monde peut écrire sur tout, oui ou non. Mais enfin, voilà, je suis pas trop catégorique là-dessus. Mais force est de constater qu'il y a notamment du côté de la romance masculine, beaucoup de femmes qui se sont mis à écrire des romances masculins, MM on appelle ça, donc des histoires d'hommes qui sont un peu fétichisantes, voire très fétichisantes. Et donc si on laisse trop de place, j'ai envie de dire, à cette littérature là et qu'on met pas assez en avant les personnes trans, PD, biguines qui écrivent, puisque en plus déjà de base c'est des personnes qui sont moins éditées comme les femmes et les personnes racisées, on est toujours une minorité. Et donc si ils galèrent à être édités et qu'en plus on n'en parle pas derrière, je me dis j'ai raté ce que j'ai envie de faire et la voix que j'ai envie d'avoir sur internet. Donc de plus en plus j'ai fait à l'occasion du mois de juin je crois des petits posts sur Instagram assez racoleurs, lisez PD, lisez trans, lisez bi, avec des recommandations majoritairement d'auteurs PD, bi ou trans, et aussi des histoires que j'ai trouvé bien écrites. Mais en fait c'est aussi un truc que j'ai, c'est quand par exemple la dernière fois j'ai lu un bouquin qui racontait une histoire de transition mais qui était écrit par une femme cis, j'ai parlé du livre sur internet et en disant s'il y a des personnes concernées n'hésitez pas et que vous l'avez lu à me faire un retour, parce que peut-être que moi de mon point de vue d'homme cis j'ai pas vu ce qui pourrait poser problème dans ce bouquin. Donc j'essaye d'être toujours hyper vigilant quand je propose des livres qui sont pas en own voice, en disant justement peut-être que moi j'ai pas repéré un passage qui pourrait on dit trigger en anglais, je sais pas comment on
trigger,
utilise ici. Déclencheur de mauvaises choses.
J'essaye d'éviter les anglicismes, mais voilà. Donc, c'est hyper important. Et en fait, je ne veux pas être le booktuber gay. Là, je suis devenu je suis Flowfly le PD, en fait. Il y a un peu cette évolution où même moi, je me suis politisé vachement à travers mes lectures. Et donc, je pense que si on regarde des vidéos d'il y a 4 ans et les vidéos que je publie maintenant, c'est des trucs qui sont vachement plus politisés et vachement plus PD qu'avant.
Mais oui, ce qui permet aussi, parce que c'est vrai que des fois on lit des bouquins mais on sait pas que les auteurs autrices derrière ça fait partie de leur sexualité et tout, et visibiliser ça ça peut donner aussi envie à des lecteurs de se retrouver là-dedant, comme tu dis justement.
Le own voice, c'est la parole des concernés qu'on a en politique,
de savoir situer voilà, parfait.
Alors là, on va passer dans la psychanalyse de ton enfance. C'était quoi ton rapport au livre quand t'étais enfant? Est-ce que t'en avais chez toi, tes parents t'en amenaient, ou est-ce que c'est quelque chose que t'as découvert par toi-même?
J'ai pas vu mes parents lire. Il y avait des bibliothèques chez moi et il y avait, vous savez, des espèces de grosses encyclopédies rouges en 150 volumes, là je sais pas quoi. C'est des trucs que mes parents avaient dû payer en mode avec des tickets sur France Loisirs ou je sais pas, tu reçois un tous les mois, que mes parents n'avaient jamais ouvert, et moi j'étais assis par terre parce que elles étaient trop lourdes pour les mettre sur les étagères du haut, donc elles étaient sur les étagères du bas, et je lisais, je revois la page avec le volcan en éruption, enfin ça m'a vite happé quand j'étais tout petit. Et mes parents, même si eux ne lisaient pas forcément, ils ont toujours eu à cœur de nous laisser libre la lecture. Ma mère m'emmenait au bibliobus, ma mère m'emmenait à la bibliothèque, j'avais le droit de prendre des livres. Et dès l'instant que je demandais un livre à ma mère, elle me l'achetait. Donc en fait, elle a été facilitatrice, elle ne m'a pas poussé vers ça non plus, elle ne m'a pas forcément montré l'exemple, mais il y a quand même eu très tôt un intérêt pour la lecture. Je me rappelle qu'au collège, bon là on est déjà un peu plus vieux, mais je passais mon temps au CDI à faire, même avec la prof documentaliste avec qui j'ai toujours contact maintenant, on a toujours, dans toutes les interviews comme ça, il y a moi c'était un prof de français, moi c'était la prof documentaliste, moi il y a quand même eu cette professeure documentaliste au collège qui m'a fait découvrir des livres, justement vu que ma mère en fait n'en lit pas, donc elle pouvait pas me conseiller des trucs, donc en fait il fallait qu'il y ait ces personnes un peu prescripteurs dans ma vie pour savoir vers quoi, ce qui allait me plaire, et elle m'a ouvert la fantasy, donc j'ai découvert les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, les Harry Potter malheureusement, on y reviendra.
Voilà.
Et plein d'autres trucs comme ça. Beaucoup de la fantaisie, mais en même temps, c'est ce qu'on cherche, je pense, quand on a à peu près 10 ans, pardon. Des trucs qui nous font un peu voyager ailleurs.
Mm-hmm. Donc, c'est ça que ça t'apporte, la lecture, c'est de voyager. Est-ce que ça t'apporte... Excusez-moi. Okay. Est-ce que ça t'apporte autre chose?
Non, bah ça fait bien en société, comme je disais tout à l'heure. Il y a un petit côté, ouais, je lis machin. Mais ouais, non, moi, je cherche... Alors, en fait, il y a les deux, parce que comme je te dis, je lis plein d'histoires PD et j'ai envie de lire des choses. C'est des gens qui ont mon âge, qui vivent en ville et qui racontent leur sexualité. Donc, en fait, on a la même vie, entre guillemets. Enfin, on est deux PD qui allons sur Grindr et on parle de Grindr, quoi. Enfin, l'auteur et moi. Et il y a ce besoin de voir quelqu'un qui vit la même chose. Et après, d'un autre côté, il y a aussi le truc où... quand je lis... maintenant, je lis un peu moins de science-fiction, mais quand je lis la science-fiction, il y a quand même ce truc où je m'évade. Et en même temps, là, de plus en plus, l'imaginaire est politisé aussi en littérature. La science-fiction, notamment, un peu moins la fantasy, qui reste encore un peu plus classique, bien que... Mais la science-fiction a toujours été politique dès la naissance et elle l'est encore plus maintenant, j'ai l'impression, avec plein d'auteurs trans, PD, biguine dans la littérature de science-fiction. Je pense à River Solomon, qui est une autrice une autrice non binaire, qui a des gros succès, qui est publiée dans une petite maison d'édition indépendante qui s'appelle Les Forges de Vulcain, et qui est trop cool, et voilà, qui propose, elle vient de sortir un bouquin de l'horreur, de la science-fiction, avec des sirènes qui tuent les hommes, enfin un peu, voilà, des trucs un peu cool. Donc, ouais, il y a les deux, j'ai envie de lire aussi sur des choses... qui sont très proches de moi, notamment par rapport à la sexualité, à l'amour. Enfin voilà, j'ai 30 ans et comme tout le monde, je me pose des questions sur ma vie. Je suis célib, j'ai envie de voir des autres gens qui galèrent. Donc c'est ce que je cherche dans la littérature. Et d'un autre côté, aussi je lis de la littérature africaine, subsaharienne. Enfin voilà, c'est des littératures auxquelles on a difficilement accès parce qu'ils sont difficilement édités ou traduits même. Donc j'essaye de lire là-dessus et c'est hyper important également.
Et est-ce qu'il y a des livres que tu ne liras jamais?
Non, en vrai, je pense pas. J'essaye tout. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais de la romance entre deux hommes écrite par une femme. Bah, j'en ai lu pour savoir de quoi ça retournait. Et j'ai vu qu'il y avait des hommes qui baisaient sans protection, machin, là-dedans. Et comme ça aussi, je peux en parler. Et je pense que c'est plus facile pour moi d'en parler sur YouTube si j'ai lu un exemple. Alors effectivement, là, j'en ai lu trois. J'avais fait une vidéo, mon problème avec ce genre de littérature. J'ai lu ces trois bouquins. J'en relirai plus jamais. Mais des livres que je ne lirai jamais, alors sauf si, ouais, évidemment, la biographie de Zemmour, je pense que je ne me pencherai pas dessus. Enfin, voilà. Quand c'est des auteurs qui parlent d'eux et je sais déjà que j'aime pas ces gens-là, je lirai pas. Mais non, j'ai pas de gros tabous en littérature.
Et avec J.K. Rowling, du coup, comment tu vis coming out TERF
Ouais, alors je suis évidemment pour le fait qu'on ne donne plus d'argent à cette femme. Et d'un autre côté, je suis aussi partisan du fait où je ne m'interdirai pas de relire Harry Potter. Si un jour j'ai envie de lire Harry Potter, je continuerai à voir les films. J'ai vu les derniers films. On savait déjà qu'elle était TERF. Quand les Animaux Fantastiques sont sortis, je les ai vus. Je ne suis pas allé au cinéma, mais je les ai vus. Et en fait, le phénomène Harry Potter, il dépasse J.K. Rowling et maintenant ils sont dissociés pour moi, donc il faut pas se flageller si on aime encore Harry Potter et si on a encore envie de lire Harry Potter. Il faut au plus possible peut-être se tourner vers l'occasion, enfin voilà. Après, en plus, Harry Potter, c'est un truc qui est hyper réédité tout le temps. Est-ce que ça sert vraiment de rééditer autant ces bouquins et surtout de les acheter? allez sur Vinted, vous prenez un lot de Harry Potter qui ont déjà servi, vous donnerez pas d'argent à J.K. Rowling et vous pourrez passer un bon moment parce que même si c'est pas hyper bien écrit, c'est de la littérature qui est hyper divertissante et avec laquelle je pense on a tous plus ou moins grandi
oui,
en fonction
ça,
de nos âges.
C'est le côté nostalgie, enfin moi c'est pas mon cas mais je sais qu'il y a beaucoup de gens, voilà. Hein, ils ont grandi avec en même temps qu'Harry, ouais. C'est ça qui fait que c'est... Mais c'est bien de continuer à garder l'univers, mais du coup, en rappelant que oui, mais elle est.
Ouais, voilà, ça, il faut aussi être vocal là-dessus. Enfin, là, je crois que dernièrement, c'était vraiment. Elle a vraiment financé une grosse asso TERF.
C'est de pire en pire.
Et même sur la répression. Enfin, un truc légal, je crois, en Grande-Bretagne, qui est passé un peu grâce à elle. Donc, effectivement, il faut aussi, si c'est quelqu'un qui a une parole publique sur Internet, qu'il soit en mesure de le dire et qu'il sache. Enfin, qu'il soit vocal là-dessus.
Est-ce qu'on se fait quand même un petit top ? Parce que, alors, tu lis beaucoup de livres par an, on a mentionné une bonne centaine, 150. Est-ce que tu as quand même un top 5 de cœur de toute ta vie, que des doudous que tu sais que quand ça va pas, quand ça va, tu retournes.
Peut-être des trucs que tu relis très souvent, si tu relis des livres.
Je relis peu de livres, il n'y en a qu'un que je relis en boucle, à peu près une fois par an, c'est Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand.
Mais pourquoi ?
Franchement, j'adore le personnage de Cyrano de Bergerac. C'est le moche qui parle bien. Enfin, voilà, c'est le truc dans lequel on aime bien se reconnaître un peu aussi. Et il y a un sens de... Moi, j'aime beaucoup l'oralité. J'aime pas mal la musique. Et donc, dans le théâtre, parce que c'est une pièce de théâtre, tout ça, t'as forcément de la musique. C'est écrit en alexandrin. Ça se lit hyper bien à voix haute. Donc, bref, Cyrano de Bergerac, c'est le top 1. Après, ça bouge pas mal. Ça me fait rire parce que tu parlais de littérature doudou, mais un livre qui m'a fracassé et que je relirai un jour, ça s'appelle « N'essuie jamais de larmes sans gants ». C'est de la littérature suédoise qui est écrite par Jonas Gardell. Et en fait, ça raconte les années SIDA en Suède. Donc, c'est deux jeunes de 20 ans qui tombent amoureux. Puis, bah, c'est les années 80, ils chopent le SIDA. Enfin, voilà, c'est à crever. Mais je pense que j'ai jamais autant chialé sur un bouquin. Et j'adore pleurer en littérature. Ça arrive pas souvent. Donc, du coup, quand ça arrive, ça marque forcément. Et celui-là, en plus, c'est un livre qui est pas forcément... Enfin, là, il vient d'être édité dernièrement, mais qui était presque introuvable pendant un temps parce que c'est de la littérature suédoise, mais qui a été traduite au Québec. Et en fait, c'était pas distribué en France. Enfin, c'était le truc un peu niche, machin, trop chiant à se procurer. Et j'en ai quand même parlé sur YouTube parce que moi j'avais réussi à l'avoir et je l'avais eu. Et il y a plein de gens qui m'ont dit putain, tu fais chier, je galère sur Vinted à essayer de trouver un ouvrage encore disponible. Et là, ça a été publié il y a pas longtemps en livre de poche, je sais plus quelle grande maison d'édition. Donc voilà, c'est facilement disponible. Mais d'un autre côté, j'essaye aussi de me détacher de ces histoires de sida qui ont pris beaucoup de place dans les littératures gays pendant très longtemps, qu'ils le font encore un peu, mais et j'ai eu un peu une période monomaniaque où je lisais que ça, et mes potes me disaient « mais t'en as pas marre ?» Et je disais « ben, pour l'instant, non, mais là, je commence à saturer, en fait. Enfin, ça fait déjà un an ou deux. » Et parce que aussi il y a d'autres imaginaires à créer autour de l'homosexualité masculine, et le sida, ok, c'est hyper important de continuer d'en parler et de remettre...
rappeler
ce qui s'est passé, et l'histoire, etc., et que même toute la politique autour, mais... Créer des imaginaires positifs autour de l'homosexualité, c'est aussi hyper cool. Donc, j'essaye de sortir de ça. Mais c'est dur, hein, parce que les auteurs PD qui écrivent des bouquins, en général, bah, ça se passe pas bien, malheureusement, à la fin.
Oui, bon, on a l'habitude au cinéma, les personnes très dirigées, c'est jamais...
Ça, ça s'améliore.
Mais ça s'améliore.
Il y a le Burry Yurgué, là, où souvent le premier personnage à crever...
Ou les noirs, ou il est gay.
Voilà, c'est ça.
Voilà,
ou c'est une femme.
Fait.
Et si c'est les trois en même temps, dommage.
Il y a un truc de... Le mélodramatique, c'est propre à la communauté LGBT, on dirait parfois même, que ce soit dans les films, les séries. Là, ça commence à changer, ouais. Ça fait trop plaisir, justement.
C'est quoi la suite ? Parce que tu as envie d'autre chose. On a vu, en travaillant sur ce sujet aujourd'hui, qu'il y avait un podcast, notamment, qui était sorti
avec un super
nom. nom, si tu veux bien nous en parler. Est-ce qu'il y a d'autres envies aussi que tu aurais envie de mettre sur les rails et que tu fais peut-être pas encore, mais...
Ouais, le podcast, du coup, ça s'appelle Demi-Molle. C'est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Et c'était pour un peu sortir du livre. C'est avec une pote que j'ai rencontrée grâce à YouTube, qui est une mamoune de mon âge, en fait, j'ai envie de dire. C'est une femme hétéro qui a son gosse et machin. Et donc, on s'est dit, putain, mais on est vachement différentes. Ouais, moi-même, je suis un homme cis, célibataire, gay, machin. Et donc, j'ai dit, vas-y, viens, on fait un podcast. Elle m'a dit, bah, feu. Et il y a plein de posts sur Instagram. T'as 30 ans, tu sais pas quoi faire de ta vie, tu fais un podcast. C'est un peu ce qui nous est arrivé. Et c'est un podcast dans lequel on parle de tout et de rien. Genre, on prend un thème et on en parle pendant 30 minutes, une heure. Par contre, c'est gentil de le mentionner, mais ça fait genre 6 mois, je crois, qu'on a rien posté parce qu'on
bah
est.
Oui, mais bon.
hyper, enfin, n'est pas du tout régulier là-dessus. C'est toujours dans un coin de notre tête et bah, ça nous
c'est
a...
ça les podcasts, hein, ça vient, ça.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc, franchement, on a été un peu écoutés, c'était trop cool. Et puis, en fait, c'est comme je dis avec Momotte, parce que la fille avec qui je fais le podcast s'appelle Momotte. Nous, des fois, on n'a pas le temps de s'appeler, on n'a pas le temps de se parler. Et donc, au moins, on, en enregistrant le podcast, on se parle pendant une demi-heure, une heure, et c'est trop cool. Donc, en fait, on s'en fout si le podcast il est diffusé ou écouté ou non. Mais ça demande un travail en plus et on a dû se former, elle et moi aussi, à un autre logiciel qui est différent que le logiciel avec lequel je fais le montage vidéo. Donc, c'était un peu chiant.
Mais non, ça élargit ta palette.
Oui, ça élargit ma palette, voilà. <c'est ça. rire> Et après, pour la suite, non, bah après, j'aimerais bien que la chaîne continue de grandir, évidemment. Elle fait son petit bonhomme de chemin. Je suis pas un énorme booktuber, je suis pas ridicule non plus.
5000
abonnés, ouais, c'est voilà, bien, c'est ça. Donc, ça me va. Et après, je sais pas, on ambitionne. Enfin, moi, j'ambitionne un peu d'un jour, peut-être, finir à la télé, à la radio, dans un média de masse, en fait. Et pourquoi pas?
Pour pouvoir proposer tous tes petits conseils de lecture.
Ouais, c'est aussi, ça, quoi. Genre une petite chronique régulière, tu vois, un truc dans le genre, ça, c'est un truc qui pourrait me faire plaisir, en vrai.
Alors, on n'est pas un grand média, mais si t'as envie,
ça serait
avec grand plaisir.
Ouais, carrément.
Avec grand plaisir. Je vous propose qu'on se fasse une autre petite pause musicale ambiancée par Flowfly, évidemment. Et puis après, on se fera une petite partie agenda, parce qu'il y a quand même plein de rendez-vous qui vous attendent pour cette deuxième partie du mois d'octobre. On se ferait pas un petit compromis, ils arrivent bientôt à Reims.
C'est 19 novembre.
19-9 Je ne sais plus. 19, tu le sais toi-même. Oui, tu sais. Et tu pourras même nous faire un retour concert après, vu que tu les as déjà vus, toi.
Ouais. Moi, pour moins cher.
Ah ouais.
Oui, pour pas cher.
Je t'envoie l'ascenseur, je veux gravir le sommet avec toi, tu le sais, découvrir le monde.
En fait, c'est une chanson d'ascenseur. J'avais jamais grillé Lift Me Up. Non, mais génial quand même. On dirait pas comme ça. Dès que c'est de l'anglais, ça paraît plus classe hein, quand clair. Même. Hein. C'était Compromat sur Radio Primitive dans Daiquiri. Et il n'y a pas de jingle, mais non, on va parler d'agenda.
Agenda.
Alors l'agenda, vendredi déjà, vous pouvez aller à la MVA, donc vendredi 17, vous pouvez aller à la MVA pour le Feminist Club du planning familial. Donc vous ramenez un truc qui parle de sorcières, sorcières. Alors sorcières et sorcières. Ah, jeu de mots, tout ça. Et bah, vous venez partager avec les gens, vous pouvez ramener de la bouffe et découvrir des trucs sur cette thématique. Alors, essayez de ne pas tous ramener Mona Chollet, s'il vous plaît, parce que sinon, ça va
c'est
être
clair.
Vite chiant.
Donc, pour rappel, le planning familial, c'est à la Maison de la Vie Associative, au troisième étage, et ce sera à 19h.
Voilà, jusqu'à 22, parce qu'après, on se fait virer. Le lendemain, c'est l'Exit Transinter à Paris. Moi, j'y vais. Du coup... Ça va être cool. Si vous êtes sur Paris, venez marcher avec nous pour nos droits, pour tout, pour la visibilité, tout ça.
Rendez-vous derrière la belle toucada.
Et je vous ferai un compte-rendu à la prochaine émission.
Ensuite, pour la fin du mois d'octobre, pour Halloween, il y a une soirée qui est Traumadol Halloween, qui est organisée par l'ACRI, la Voix des Hyènes et la Tarasque, qui se passera donc au Gratte Ferraille. Et ensuite, on passe au mois de novembre avec, à ne surtout pas louper, au Manège, le spectacle de Jenny Victoire Charton ou Chartonne, je ne sais pas trop comment on prononce, qui est le 6 novembre. Le spectacle s'appelle Voler le feu et on en reparlera sûrement le mois prochain.
Oui. Son premier spectacle est trop bien, donc franchement, il faut aller voir celui-là, ça va être encore
son
génial.
Son premier spectacle, c'était Dans mon dessin, Anatomie d'une transition. Et donc, elle revient à Reims pour ce deuxième volet. Donc, venez, ça va être chouette. Merci encore à toi, Flo Fly. Où est-ce qu'on te retrouve? Alors, tu rappelles les moyens de te contacter, d'aller voir toutes tes vidéos et tout ça?
Sur Instagram, YouTube, principalement, c'est Flo Fly avec 2Y, F-L-O-F-L 2Y. Et voilà, et puis bah, c'est là où vous me retrouvez.
Et on peut venir te parler comme ça.
Et vous pouvez m'envoyer un DM, salut ça va, ou tu lis quoi, qu'est-ce que je peux lire. Alors me dites pas juste qu'est-ce que je peux lire, dites-moi ce que vous aimez un peu, etc. Sinon je peux que j'aiguille un peu quoi.
Et dernière date, on n'oublie pas, le 19 novembre, l'OST organise une projection, je vous en dis pas plus.
Dans le cadre
mais
du
voilà.
Tidor, mais le Tidor
restez,
on en parlera le
restez
mois
connectés.
Prochain.
Voilà, et nous on se quitte,
oui.
On se laisse, juste après c'est le foutoir, et c'est le nom de leur émission, bien évidemment. On se quitte avec Shamir et son morceau Obsession, merci encore.
Merci.
Bisous.
Bisous.
Au revoir.
Oui.